Bonjour à tous. La campagne pour l'élection présidentielle avec un coup d'accélérateur et du mouvement ce matin dans les états-majors. Guillaume Pelletier rejoint Éric Zemmour, l'ancien numéro 2 du Parti Les Républicains, va devenir le porte-parole du candidat de Reconquête. Les précisions dans un instant d'Anne Souhaitemont. Et à gauche, Christiane Taubira annonce qu'elle sera candidate à l'élection présidentielle si elle remporte la primaire populaire fin janvier. Amélie de Montchalin répond aux manifestants anti-pass vaccinal hier. Selon la ministre, les politiques qui sont dans les cortèges sont dangereux. À l'étranger, tension avant discussion sur la crise ukrainienne. Moscou prévient ce matin qu'il n'y aura aucune concession avant une réunion avec les États-Unis. Dans ce journal également, déploiement 100% réussi pour le télescope spatial James Webb, le début d'une aventure extraordinaire. Observez les premières galaxies. Invité de ce journal, l'astrophysicien David Elbaz. La météo très agitée, 8 départements en vigilance orange, pluie, inondations ou crues dans le sud-ouest et le nord. En Bretagne, 3500 foyers restent privés d'électricité après le coup de vent de la nuit. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
La campagne pour l'élection présidentielle avec ce que l'on peut appeler un coup de tonnerre à droite. Guillaume Pelletier, député du Parti Les Républicains, annonce donc ce matin qu'il rejoint Éric Zemmour, le seul candidat selon lui fidèle aux valeurs du RPR. Et Guillaume Pelletier va devenir porte-parole de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Anne Souhaitemont.
Il a donc fini par choisir son camp. Après des mois à se faire plus que discret, Guillaume Pelletier, l'ancien numéro 2 du Parti LR, est sorti de son silence sur Europe 1.
J'ai pris la décision de soutenir le seul candidat de la droite, le seul candidat fidèle aux valeurs du RPR, le seul candidat fondamentalement courageux et lucide sur l'état de la société française. J'ai décidé de soutenir Éric Zemmour pour qu'il soit notre prochain président de la République.
Guillaume Pelletier tourne donc le dos à la candidate de sa famille politique, Valérie Pécresse, et le député appuie là où ça fait mal, le positionnement face à Emmanuel Macron.
Est-ce qu'elle s'engage, à l'inverse de ce qu'elle a fait en 2017, à ne pas soutenir Emmanuel Macron en 2022. Nous sommes le 9 janvier, je n'ai pas eu la réponse.
Le patron des Républicains réplique immédiatement. Christian Jacob annonce l'exclusion du frondeur, dont il dénonce le retour aux sources, allusion à ses débuts au Front National. Alors la droite, Valérie Pécresse, doivent-ils craindre un effet Pelletier? Guillaume est seul, démonétisé, il n'était déjà plus grand-chose, tacle-t-on dans le camp Pécresse. Problème, Guillaume Pelletier parlera dès demain tous les jours aux électeurs de la droite, puisqu'il sera nommé porte-parole d'Éric Zemmour.
Et la campagne se poursuit ce dimanche et les candidats à l'élection présidentielle arpentent le terrain vers les électeurs avec notamment Marine Le Pen à Perpignan dans les Pyrénées-Orientales, Nathalie Arthaud à Ternier dans l'Aisne. Christiane Taubira de son côté est à Bondy en Seine-Saint-Denis. Christiane Taubira qui annonce qu'elle sera candidate si elle remporte la primaire populaire fin janvier. Sur place à Bondy, Margot Karoff.
Pour Christiane Taubira, la primaire populaire est l'ultime espoir d'une union de la gauche.
Nous sommes toujours dans l'impasse. Aucun signe de rassemblement ne semble possible, ne se voit, ni à l'échelle des candidats, ni à l'échelle des partis politiques. Par conséquent, il reste la primaire populaire, qui est l'espace démocratique construit rigoureusement depuis plusieurs mois et qui nous donne cette nouvelle chance, cette dernière chance d'une union possible de la gauche.
Elle compte sur les 300 000 électeurs de cette primaire pour départager les candidats et elle les appelle, ces candidats, à jouer le jeu comme elle.
Puisque nous savons que nous sommes capables de gouverner ensemble, acceptons l'augure de la primaire populaire. C'est la plus belle et la plus forte des légitimités. J'invite donc les candidates et candidats de gauche, écologie comprise, à en faire autant.
Le candidat écologiste Yannick Jadot lui a déjà répondu c'est non pour la primaire populaire. La candidature unique de la gauche est encore loin, très loin d'être gagnée.
Margot Karoff a bondi avec Frédéric Kérou et a noté un rendez-vous politique à partir de ce soir, un nouveau rendez-vous à partir de ce soir sur France Inter, un dimanche de campagne à 18h10 après le journal. Un dimanche de campagne présenté ce soir par Jérôme Cadet avec Thomas Legrand, plusieurs invités, plusieurs rendez-vous et notamment les Bobineaux de Thomas Legrand. Grand, un dimanche de campagne à 18h10 jusqu'au journal de 19h. La mobilisation dans la rue des antipasses vaccinales a été forte hier en France. Plus de 100 000 personnes ont manifesté contre le projet de passe vaccinal et les propos d'Emmanuel Macron à l'encontre des non-vaccinés. Dans les cortèges, certains manifestants ont regretté que le dialogue, disent-ils, soit devenu impossible. Amélie de Montchalin a répondu ce matin, la ministre de la Transformation et de la Fonction publique dénonce une instrumentalisation dangereuse.
Vous aviez hier dans la rue des hommes et des femmes qui se disent politiques, Florian Philippot et d'autres,
qui appellent à la manifestation, qui sont des antivax, qui sont des complotistes, qui mettent en danger la vie des uns et des autres sous couvert de pseudo-théories, objectivement, ces gens-là sont dangereux pour la nation, ils sont dangereux pour la santé des Français. C'est légitime, toujours, dans notre pays, de manifester. Ce qui est moins légitime, c'est d'instrumentaliser, c'est de mettre en danger la santé des Français. C'est de considérer qu'il y aurait un grand complot, c'est de considérer que nous serions en dictature. Alors... Donc, soyons très très lucides, le combat, il est où? Le combat, il est de protéger les Français. Je voudrais qu'on n'oublie pas de quoi on parle. Parce que j'ai parfois l'impression qu'on a des débats totalement désincarnés. On parle d'une maladie qui a fait 130 000 morts. On parle de 3 800 personnes aujourd'hui qui sont dans des réanimations. On parle des millions de soignants dans notre pays épuisés. Nous avons un devoir aujourd'hui aussi
Amélie Manchelin.
De nous rappeler que nous parlons de santé, pas juste ça dans un débat, parce que sous prétexte de faire de la politique, on pourrait
Amélie
utiliser
Manchelin.
Le Covid.
Amélie de Montchalin avec Jean-Jérôme Bertolu ce matin sur France Info. La ministre a également déclaré à propos de la grève des enseignants jeudi prochain 13 janvier qu'elle ne condamnait pas ce mouvement de grève, mais je crois, a-t-elle dit, au dialogue social pour trouver des solutions partagées. La semaine qui s'annonce sera sous tension, notamment à l'école. Et comme les enseignants et les parents, certains acteurs indispensables de la vie scolaire sont inquiets des contaminations en flèche à l'école. Les AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, aident tous les jours à l'école et au lycée les enfants en difficulté ou handicapés. Ils sont en première ligne dans les classes alors que le Covid progresse à toute vitesse. Plus de 9000 classes sont fermées dans le pays et face au risque de contamination, les accompagnants d'élèves en situation de handicap se sentent démunis, Victor Basseur.
Depuis le début de la cinquième vague, Nacera a une crainte quand elle se rend dans son école stéphanoise.
On a la boule au ventre quand on va au travail, et ben si, on a peur de choper le Covid.
Car elle est au plus près des enfants, comme Marine, 55 ans, cette AESH travaille à Eysines, près de Bordeaux. Elle accompagne une adolescente atteinte de myopathie.
Donc je pose sa main sur sa manette pour diriger son fauteuil, je pose sa main sur la souris pour qu'elle puisse travailler sur l'ordinateur, je repositionne son masque, enfin je veux dire, je suis penchée sur elle, je la recoiffe, je redresse sa tête, je suis tout le temps au contact de l'élève, je ne peux pas être à un mètre.
Les AESH pointent du doigt le protocole sanitaire, pas assez strict à leur sens. Ils peuvent côtoyer un enfant positif, mais ils ne seront pas considérés comme cas contact.
Là, on serre les fesses depuis lundi.
Jérôme accompagne deux élèves de 6e dans le Val-de-Marne.
On peut être réaffecté dans une autre classe ou auprès d'autres élèves. Voilà, donc en fait, on est des agents maintenant de diffusion de Covid. Dès lors qu'une classe est fermée, on va nous affecter dans une autre classe.
Tous les AESH achètent leur propre masque en attendant la distribution gratuite de masques chirurgicaux d'ici la fin du mois, comme l'a promis le Premier ministre.
Et puis j'ajoute que concernant la stratégie de test du gouvernement, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, annonce ce matin un plan de renforcement de la politique de test face à l'épidémie de Covid, avec notamment le déploiement de plusieurs centaines de centres de dépistage à proximité des centres de vaccination. C'est malheureusement un drame et un choc qui se répètent après l'image terrible qui reste en mémoire du corps sans vie du petit Aylen, retrouvé sur une plage turque en 2015. Les gardes-côtes grecs ont retrouvé le corps d'un enfant très abîmé au large de l'île grecque de Naxos. L'enfant, âgé d'environ 3 ans, portait une tétine accrochée à un cordon de perles et un bavoir imprimé, précisent les gardes-côtes ces derniers temps. La Grèce a été régulièrement accusée de refouler en haute mer les migrants qui veulent rejoindre l'Europe. Accusation qu'elle a toujours rejetée. Pourtant, les récentes déclarations du ministre grec de la politique migratoire, Notis Mitarakis, jettent un flou autour de cette pratique. Sur place à Athènes, Angélique Couronis.
Dans son message de la veille du Nouvel An, le ministre de l'Immigration s'est félicité de la baisse du nombre d'arrivées de demandeurs d'asile en Grèce. Selon Notis Mitarakis, seuls 8616 migrants sont arrivés au pays l'année dernière et jusqu'au 21 décembre. Or, le ministre de la Marine Marchande a déclaré, lui, que les gardes-côtes grecs avaient sauvé dans la même période 29 384 migrants. Plus de 20 000 manqueraient donc à l'appel. La presse d'opposition est montée au créneau, accusant le gouvernement de refoulement massif en haute mer, ce qui est illégal. Pour Hélène Itakou de l'organisation humanitaire 360 degrés, si ces refoulements sont confirmés, la Grèce n'est pas la seule en cause.
Aux frontières grecques, ce n'est pas une politique grecque qui est appliquée, mais une politique européenne via le gouvernement grec. Il n'est donc pas étonnant qu'ils ferment les yeux sur ces refoulements.
Pour décourager les candidats à l'asile, la Grèce a durci sa politique migratoire. Les nouveaux arrivants sont confinés dans des camps fermés, d'où on ne sort que quelques heures par jour avec un bracelet électronique. Il est très difficile d'obtenir le statut de réfugiés. Les aides financières sont données au compte-gouttes. Enfin, selon les ONG pro-migrants, il n'y a vraiment en Grèce aucune réelle politique d'intégration. Athènes, Angélique Cournis pour France Inter.
À l'étranger encore, concernant la crise en Ukraine et les discussions qui doivent débuter ce soir à Genève entre la Russie et les États-Unis, Moscou a prévenu ce matin de manière ferme que la Russie exclut toute concession sur le dossier ukrainien. La Russie se dit déçue par les signaux envoyés par les Américains et les Occidentaux accusent la Russie de masser des troupes à la frontière ukrainienne. Julie Pietri.
Comment les États-Unis comptent punir la Russie en cas d'invasion de l'Ukraine? C'était la une ce matin du site du New York Times qui diffuse une liste de sanctions possibles, précisées au journal par des diplomates américains. Quelques exemples, fin de l'exportation de téléphones et ordinateurs américains vers la Russie. La Russie pourra aussi être privée de produits US dont elle a besoin pour ses industries de l'armement et de l'aérospatiale. Les États-Unis envisagent aussi de fournir des armes à l'Ukraine si invasion il y a. Un coup de pression qui ne passe pas bien du tout à Moscou. Nous sommes déçus des signaux envoyés ces derniers jours. Nous n'accepterons aucune concession, a lâché ce matin le russe Sergueï Ryabkov qui sera des négociations à Genève. Les États-Unis et ses alliés demandent à la Russie de retirer ses troupes de la frontière ukrainienne et veulent relancer les discussions pour mettre fin au conflit dans le Donbass. Quand Moscou, de son côté, réclame à l'OTAN de ne pas intégrer l'Ukraine et de retirer les soldats américains de l'Alliance présents dans les pays les plus proches de ses frontières, des positions qui semblent aujourd'hui irréconciliables.
Et puis concernant les émeutes au Kazakhstan, le pape François appelle au dialogue. Le pape François exprime sa douleur pour les victimes des émeutes et selon les médias, 164 personnes ont été tuées.
France Inter, le journal de 13h, Frédéric Barrère.
Et on va maintenant s'arrêter sur ce qui apparaît bien comme un exploit dans l'espace, le début d'une extraordinaire aventure d'au moins 10 ans. Le télescope spatial James Webb a réussi son déploiement dans l'espace à 1 million de kilomètres de la Terre pour l'instant. Et forcément, à la NASA, depuis Baltimore, l'opération a été accueillie dans une explosion de joie.
And we have a fully deployed JWST observatory.
Yes. Voilà, James Webb, totalement déployé. Les applaudissements sur Twitter et sur les télés américaines de l'équipe. NASA Webb, un moment que nous propose Rachid Zourdani. Invité de ce journal, David Elbaz, astrophysicien et directeur scientifique du département d'astrophysique au CEA. Et vous venez de publier La plus belle ruse de la lumière chez Odile Jacob. Bonjour David Elbaz.
Bonjour, Frédéric Barrère.
Alors ce télescope James Webb qui a réussi son déploiement, le déploiement de ces panneaux de 6 mètres ou un peu plus, expliquez-nous en quoi il s'agit d'une prouesse.
Alors c'est une prouesse parce que c'est la première fois qu'on envoie un satellite dans l'espace qui est tout replié sur lui-même avec des centaines de mécanismes, certains explosifs pour que le télescope se déploie. C'est le plus grand télescope qu'on a jamais envoyé dans l'espace. Et donc pour une fois, après le lancement, on n'était pas complètement soulagés. Il y a eu des pare-soleils qui font la taille d'un terrain de tennis qui se sont déployés en plusieurs jours. C'était la semaine dernière. Et puis là, hier, c'était la fin de tout l'ensemble des mécanismes avec le déploiement de 18 miroirs hexagonaux pour faire le miroir complet de 6,50 m de ce géant de l'espace qui va nous permettre de percer les origines de l'univers. Et tout a fonctionné parfaitement. Et ça, c'était vraiment une prouesse. C'est une première.
On comprend les applaudissements. Alors, sa mission et votre contentement. Alors, sa mission de James Webb, c'est donc explorer le cosmos pour découvrir d'autres planètes comme la Terre, c'est ça?
Alors, c'est pas la découverte d'autres planètes. Maintenant, on en a découvert plusieurs milliers, mais vous avez tout à fait raison. Et c'est un objectif récent qui vient du fait qu'on a découvert pendant la construction du satellite ces nouvelles planètes. C'est que maintenant, on va encore une étape plus loin. Mmh. On a envie de comprendre si ces planètes pourraient abriter de la vie. On va étudier l'atmosphère de planètes qui tournent autour d'autres étoiles. On va essayer de voir s'il y a de l'eau, de l'ammoniaque, tout un tas de molécules pour voir si elles peuvent porter la vie et si la vie existe ailleurs dans l'univers.
On va remonter le temps de combien d'années? 13 milliards d'années, c'est ça?
Oui, on va même essayer d'aller encore plus loin, 13,5, 13,6.
C'est inimaginable.
Tout au fond. Inimaginable, les premiers instants où la formation des premières sources de lumière de l'univers, les premières étoiles, les premières galaxies, qui sont totalement inaccessibles au satellite Hubble parce qu'elles sont invisibles pour lui, mais on va plonger dans l'invisible, dans l'infrarouge, et c'est pour ça que le miroir est recouvert d'une feuille d'or de l'épaisseur d'un 10 000 000e de l'épaisseur d'un cheveu, qui a la propriété d'être particulièrement réfléchissante dans l'infrarouge.
Alors David Elbaz, ces premières images de l'invisible, hein, nous parviendront dans combien de temps?
Alors, les premières images, on les aura, il va falloir encore attendre quelques mois, au mois de juin prochain. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord que le satellite diminue sa température encore plus, parce que sinon il verrait son propre rayonnement. Et puis ensuite, on va aligner avec des petits moteurs l'ensemble du miroir pour qu'il soit parfaitement précis. Ensuite, les instruments vont se mettre en marche, et là, rôle très important de la France, puisque nous avons été maître d'œuvre de l'imageur qui va regarder dans l'infrarouge moyen et qui va permettre d'étudier justement les atmosphères d'exoplanètes avec le CEA, le CNES. Et là, on va enfin pouvoir voir les premières images, disons, on s'attend à ce qu'elles arrivent au mois de juin prochain. Et les plus grands programmes scientifiques vont commencer tout de suite pour que toute la communauté scientifique à l'échelle de la planète puisse avoir accès à ces données de façon gratuite. Pour les premières données vont être distribuées à tout le monde.
En quelques secondes, David Elbaz, cela signifie quoi que les instruments scientifiques et James Webb doivent refroidir? Jusqu'à quel point ils doivent refroidir?
Oui, parce qu'en fait, vous savez, nous-mêmes, nous sommes une source de lumière dans l'infrarouge. Et donc, si le satellite lui-même n'était pas à la température de moins 220 degrés, donc 50 degrés au-dessus du zéro absolu, alors il deviendrait lui-même une source de rayonnement infrarouge, il serait aveuglé par sa propre lumière. Et pour l'instrument, avec la forte contribution française, qui s'appelle MIRI, avec l'imageur MIRIM, alors là, il faut descendre à 7 degrés au-dessus du zéro absolu. Donc là, il y a un mécanisme de refroidissement en plus, pour ne pas être ébloui dans le domaine de l'infrarouge.
Merci beaucoup, David Elbaz, astrophysicien, c'était passionnant, et directeur scientifique du département d'astrophysique au CEA. Merci à vous.
Merci beaucoup.
L'un des temps forts en sport aujourd'hui, c'est le début de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Les derniers préparatifs et les derniers coups de pinceau sur le stade Olembé de Yaoundé ont été donnés. Tout est prêt pour le match d'ouverture entre le Cameroun et le Burkina Faso cet après-midi. Et toute l'Afrique a le regard tourné vers le Cameroun pour cette 33e édition de la CAN. Premier grand événement populaire de 2022, mais le tournoi est confronté à un immense défi tant sanitaire que sécuritaire, Christian Chéneau.
Pour cette CAN qui se déroule en pleine vague du variant Omicron, tous les supporters devront être entièrement vaccinés pour se rendre au stade et devront présenter un PCR négatif de moins de 72 heures ou un test antigénique de moins de 24 heures. Mais un phénomène inquiète les organisateurs, celui de la prolifération de faux tests et de faux certificats de vaccination dans un pays où, selon les chiffres du ministère camerounais de la Santé, seul environ 6% de la population âgée de plus de 18 ans a été vaccinée. L'autre défi est sécuritaire. Certains groupes armés autonomistes anglophones ont promis de perturber la compétition et envoyé des lettres de menace aux équipes du groupe F, c'est-à-dire la Tunisie, le Mali, la Mauritanie et la Gambie, qui vont jouer leur match dans la ville de Limbé, station balnéaire du sud-ouest du pays. Le gouvernement a déjà déployé sur place des soldats lourdement armés qui opèrent des contrôles et des fouilles dans tous les quartiers de la ville. Il y a enfin la menace venue du nord, celle des djihadistes de Boko Haram et de son rival de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, qui pourraient profiter de l'événement pour mener des attaques terroristes.
Cameroun, Burkina Faso, en ouverture de la CAN à 17h en France. L'affiche ce soir de la 20e journée de Ligue 1, c'est Lyon-PSG sans Messi, qui a déclaré forfait hier à 24h avant le match. Mais on termine avec un autre rendez-vous sportif ce week-end. La Grande Odyssée à Samoin, en Haute-Savoie. Première étape aujourd'hui de la 18e édition de cette célèbre course de chiens de traîneau. Une cinquantaine de mushers du monde entier sont présents avec environ 600 chiens. Reportage, Colline Mollard, France Bleu Pays de Savoie.
Pour les mushers et pour les spectateurs comme Monique, venue tout droit de Seine-et-Marne.
Moi, je suis une accro depuis des années. J'adore les chiens et j'adore ce concept neige et rapport humain entre l'animal et l'humain avec le musher et toute cette chaleur humaine qui dégage de cette grande odyssée chaque année.
Une nouvelle occasion pour le musher Jean Combazard de partager sa passion pour sa 15e participation à la course.
On fait participer les gens, c'est une animation pour eux, voilà, c'est plus vivant.
Même ces chiens s'impatientent de retrouver leur public.
Ce qu'ils entendent surtout, c'est le bruit du micro. Ils savent qu'ils sont en compétition, dès qu'ils vont commencer à entendre des micros, même s'ils ne sont pas encore habillés ou prêts à partir, ils vont être comme des fous, ils vont être heureux.
Ouais. Les huskies de Cédric Bello, eux, sont novices dans la compétition.
On vient de finir de farter le traîneau.
C'est la deuxième participation du musher venu de Loire-Atlantique.
Quand le public n'est pas là, il manque 50% du spectacle. Ça nous motive, ça crée de l'émulation, ça met de l'ambiance, ça fait monter un peu la pression. On en a besoin en compétition, ça fait partie de la course.
Une course qui devrait accueillir près de 50 000 spectateurs sur les 12 prochains jours.
Reportage de Colline Mollard de France Bleu, Pays de Savoie. La météo pour cet après-midi est Bordeaux.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski.
Un temps perturbé sur la partie sud-ouest du pays qui va donner par blocage sur le relief d'importantes quantités de précipitations entre la Garonne et les Pyrénées ces prochaines 24 heures, notamment sur les départements pyrénéens en vigilance orange, forte pluie, inondation. De plus, le Gers, les Landes, l'Aisne et le Nord sont en orange cru. Notez qu'il va beaucoup neiger sur les Pyrénées à partir de 1300 mètres cet après-midi, 2000 mètres ce soir, d'où un risque d'avalanche très élevé. Autour de la Méditerranée, le vent turbulent va maintenir un ciel dégagé, mais sur la Corse, là, c'est un régime d'averses qui s'impose. Des averses ont également circulé du massif central vers le centre et le bassin parisien, avec de la neige sur l'Auvergne, tandis que le Nord et le Pas-de-Calais vont rester totalement à l'écart. Plus à l'ouest de la Bretagne, au nord de l'Aquitaine, après les averses de la matinée, l'ambiance va tourner à la pluie. Enfin, du Grand Est à Rhône-Alpes, les nuages vont s'accompagner de pluie en plaine et de flocons dès les premières hauteurs.